Que le nom du Seigneur soit loué. Ô héritier, nous sommes et sacrificateurs et co-ouvriers, nous sommes devenus. Nous sommes co-héritiers, nous sommes et sacrificateurs et co-ouvriers, nous sommes devenus. C'était le 1er janvier 2000. J'étais allé au village la nuit du 31 décembre était une nuit spéciale partout. Tout le monde parlait de 2000, que les choses vont changer. Et c'est comme 2020 est arrivé, tout le monde était fou, 2020. Au plan mondial, la question qui se posait était une question informatique pour les avions et autres. Comment les programmations informatiques n'étaient pas faites pour 2000 et quelques, et comment on passera du 20e siècle au 21e siècle, c'est-à-dire de 1900 à 2000, puisque automatiquement, il faut que les ordinateurs changent et aillent de l'avant, alors que l'informatique, bien que solide en ce moment, n'était pas aussi développée. Donc, des problèmes se posaient. Les problèmes que se posait le monde étaient des problèmes plutôt qui gèrent le quotidien, qui gèrent le bien-être de l'homme au plan matériel, financier, etc. Mais personne ne se posait de problèmes concernant sa relation avec Dieu. Les gens, chacun avait déjà prédit en lui-même ce qu'il sera en 2000. Et en ce temps, avant que 2000 n'arrive, il y a même des entreprises et des organisations nationales au plan mondial et même international qui avaient mis comme objectif 2000, donc il y a plein d'écrits ou même de noms de sociétés qui portaient 2000. Mais je ne sais pas si chacun a remarqué que ceux qui ont pensé dans les années 80, dans les années 70, parler de 2000, ont été, je ne sais pas s'ils ont vu qu'ils ont été rapidement rattrapés par ce qu'ils voyaient de très loin, ce qu'ils pensaient être encore loin. Ils ont été rattrapés. Donc, 2000, si tu avais créé une société 2000, ce qui veut dire que ta société n'existe plus, ne serait-ce que de par les belles idées au plan des objectifs. Donc, tu es dépassé. 2000 est arrivé et qu'est-ce que tu veux faire? Donc j'étais au village quand le pasteur m'a sollicité pour prêcher. Et je n'ai jamais oublié cette prédication, puisque mon père, je vous ai dit que j'étais en train, mon père avait fait l'effort de venir, il est mort en 2000, le 23 novembre. Et donc, il avait fait l'effort de venir à l'église. Je prêchais, mais il ne pouvait pas tenir longtemps. Et il était parti. Il était fatigué. Donc ça m'a marqué. Et j'ai dit aux gens de ne pas s'occuper de mon père, que l'essentiel est dans la parole qu'on est en train de dire ici, que mon père a fait son travail. Il a fait ce qu'il a pu faire de sa vie. et qu'il sera accompagné, il est accompagné. Les gens voyaient deux scènes de la même, qui venaient de la même maison. Mon père malade, donc qui avait un problème de santé, et son fils qui parlait des relations avec Dieu. Au moment où il parlait des relations avec Dieu, son père était malade et sortait. Donc, les gens, chacun pensait ce qu'il pense. J'ai commencé par cette petite histoire parce que quand j'ai reçu ce message, je me suis posé beaucoup de questions. C'est par obéissance que ce que j'ai entendu dans ma oreille, et je viens livrer ça. C'est le même message de l'année 2000. C'était hier. Certains diront que ça fait longtemps. 25 ans. C'est comme Abraham qui a oublié, qui pourrait oublier la promesse parce que les années passaient. C'était seulement hier. Alors, c'est maintenant que je me pose la question de savoir quelle a été cette grâce que le pasteur me laisse la chair pour prêcher. C'était dans Luc, mais moi je l'ai reçu dans Ésaïe. Dans Luc, il est dit qu'il a pris le rouleau. Jésus-Christ a pris le rouleau et ayant ouvert ce rouleau, ayant déroulé le rouleau, il a lu ce passage, cette prophétie d'Ésaïe. Et il a dit aujourd'hui, etc. Cette prophétie s'est réalisée. Et le 1er janvier 2000, j'avais reçu, non, je n'avais pas reçu le passage. C'est un passage programmé par l'Église évangélique presbytérienne. Et depuis ce moment, je ne crois pas avoir reçu pour une prédication ou quoi ce passage. C'est aujourd'hui que nous revenons là-dessus. Et bientôt, le 1er janvier 2026, donc ça fait 25 ans que j'ai fait cette prédication, mais aujourd'hui, c'est un message pour nous tous. Je lis Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé somme d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Éphésiens, dans Éphésiens, Paul dit que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes devenus aussi héritiers. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et nous sommes co-héritiers avec Christ, co-héritiers du Saint-Esprit avec Christ. Nous sommes devenus l'Esprit du Seigneur. En tout cas, ce qui est ici est sur moi. Normalement, l'Esprit du Seigneur doit être sur toi aussi. Et si nous avons hérité de Dieu, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, c'est que nous sommes aussi fils de Dieu. Le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un ici sait ce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait. Je ne sais pas si nous sommes conscients de ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la forme utilisable de la nature de Dieu par les hommes. La nature de Dieu, c'est qu'il est esprit. Et la forme utilisable de la nature de Dieu qui est rendue saisissable par ceux qui le veulent, c'est le Saint-Esprit. C'est la forme utilisable de la nature de Christ, utilisable par les hommes. C'est la forme de la nature de Dieu qui peut exister en nous pour nous transformer. C'est la forme de Dieu, de la nature de Dieu qui dicte ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, qui dit ce qui va arriver, ce qui sera bon pour nous, ce qui ne sera pas bon pour nous. C'est la forme de la nature de Dieu qui même couvre nos années passées, et notre existence actuelle avec notre futur. C'est la forme qui couvre notre vie ici-bas et qui va au-delà de la vie ici-bas pour aller dans la vie éternelle. L'Esprit de Dieu est puissant pour nous aider à consoler les affligés, à porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux ici ne sont pas les pauvres comme nous les entendons, de quelqu'un qui vient me voir avec une histoire qui... Non, ce sont ceux qui n'ont pas Christ. À guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le Saint-Esprit qui est en nous peut être communiqué à plusieurs, de sorte que dans leur manière ou bien dans leur état, cela puisse passer d'un état de cœur brisé à un état de cœur guéri. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que j'avais le cœur brisé avec la mort de mon petit frère. Mais dans ce tournant, quand l'Esprit de Dieu a été sur moi, m'a été communiqué, et que j'ai entendu dans mes oreilles que Myroya, Mielkoni femme, Abba Messie aussi, mon corps me le ouéné. En fait, cette parole ne suffisait pas pour que je sois rempli de joie. Cette parole, quand on la prend comme ça, de façon littéraire, elle ne suffit pas pour que dame, ma peine, ma grande douleur, je sois rempli de joie. Mais dès que cette parole m'a été dite, j'ai été rempli d'une joie que je n'ai jamais connue. C'est la première fois que j'allais au cimetière avec une grande joie pour aller enterrer quelqu'un que j'aime. Et c'est avec joie que j'ai laissé mon mouchoir sur son cercueil, que j'ai lancé mon mouchoir dans sa tombe. Et l'Esprit du Seigneur m'a transformé. L'Esprit du Seigneur l'avait déjà transformé parce que sur son lit d'hôpital, lui, moi je n'avais pas fait l'expérience, mais lui déjà était visité par Dieu. Vous et moi, assis ici, chacun croit quelque chose, voit quelque chose avant d'arriver. Selon lui, chacun selon lui pense à quelque chose avant d'arriver. Selon moi, mon petit frère ne devait pas mourir. Selon Dieu, mon petit frère devait passer par là pour me récupérer. Peut-être que vous êtes venu ici ce matin avec un cœur brisé, ou que quelqu'un à côté de vous qui a un cœur brisé, moi, Dieu me dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je guérisse ceux qui ont le cœur brisé, pour que je console les affligés, pour que j'accorde... Je communique aux affligés de Sion, aux affligés. Je leur accorde, je leur donne un diadème au lieu de la cendre. Je leur donne une couronne de roi, de reine, au lieu d'un cœur qui est en train de se poser des questions. Le Saint-Esprit n'est pas une école, une formation N'est pas je ne sais pas, un n'est pas une spécialité qu'on va chercher à prendre dans une école. Comme c'est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit descend sur nous de façon brute, sans que nous soyons peut-être parfois prêts pour recevoir l'ordre du Saint-Esprit. Et nous parle de façon à désorganiser notre vie parfois. Très souvent, je n'ai pas encore vu dans la Bible quelqu'un qui, voulant faire quelque chose, a été, qui est vraiment homme de Dieu ou femme, qui a servi Dieu, qui est allé au bout de ce qu'il veut, et je n'ai pas vu. Non. Le Saint-Esprit vient toujours mettre un, c'est comme un désordre. Mais au fait, c'est un bon désordre qui nous sauve. Souvenez-vous de Abraham, qui est devenu Abraham, et de Saraï. Mais ils étaient là tout calmement quand Dieu est venu. Souvenez-vous de Jacob. Il n'a jamais demandé à être choisi par Dieu. C'est avec un cœur brisé qu'il fuyait. Et à lui, il a rencontré Dieu, Bethel, qui lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Souvenez-vous de Moïse. Tel qu'il voyait les choses. Et ce n'est pas ce que Dieu a mis sur son chemin. Au point où même son bâton inerte, c'est lui qui a commencé à fuir son bâton qu'il tenait depuis des années. Quand Dieu, le Saint-Esprit, a transformé son bâton en serpent, c'est Moïse, qui se croyait propriétaire du bâton, qui a commencé par fuir son bâton. Dieu lui a dit, prends le bâton par la queue. Et il a repris encore un bâton et son bâton. Dieu lui a dit, mets ta main dans ton sein. Il a mis sa main. Moïse croyait que c'est pour revenir avec une grande bénédiction. Il sort la main. C'est une main lépreuse. C'est sa nature. Puisque tu ne sais pas encore ce que tu as rencontré, mets ta main là-bas, je te montrerai ta nature. Tu es en réalité quelqu'un, un lépreux, quelqu'un de malade. Mais remets ça maintenant. Il remet ça. Mais c'est avec une autre main bénigne avec laquelle il fera des miracles. Ou en Égypte, avec laquelle il conduira tout le peuple d'Israël. Souvenez-vous de David. Mais il courait après les moutons de son père avec joie pour et revenir dire, ah, moi, aujourd'hui c'était des panthères, hier c'était des lions, avant-hier c'était des hyènes. C'est ça qui était sa joie quand Dieu l'a amené. Et la parole de Dieu dit que Dieu l'a trouvé selon son cœur et il a changé sa vie. C'est pas ça. David, tu n'es pas, tu pensais, si tu es le dernier. Tu pensais que tu as la bonne part en étant derrière les moutons de ton père, mais ce n'est pas ça. Et qu'il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui jusqu'à la fin. Et vous connaissez la vie de David du début à la fin. Le Saint-Esprit était avec lui, de sorte que tout ce qu'il faisait était dans la conduite de Dieu, du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans le verset 3 de Ésaïe 61 que afin qu'on les appelle ceux-là avec qui nous avons communiqué, c'est pour qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est pour que les gens avec qui nous serons, avec qui nous, les gens à qui nous communiquerons, ce Saint-Esprit, la volonté de Dieu, que ces gens deviennent des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Écoutez bien. Ces gens auront leur vie changée pour rebâtir, verset 4, sur d'anciennes ruines, nos familles qui ont peut-être, qui sont mortes, qui sont malheureuses, qui ont eu un parcours qui fait que on peut dire que c'est une ruine, tout ce que nous avons vu dans notre vie, leur famille, pas nous, les gens avec qui nous écouterons. Ce sont ces gens qui nous écouteront, qui auront écouté le Saint-Esprit, ce que dit le Saint-Esprit, ce que dit Dieu, qui pourront rebâtir. Maintenant, Dieu va faire d'eux des gens qui peuvent rebâtir ce qui existait derrière eux ou derrière elles ce sont des ruines. De génération en génération, avant cette personne à qui nous communiquons l'Esprit de Dieu qui est sur nous, ces gens rebâtiront s'ils acceptent la parole de Dieu, s'ils acceptent la volonté de Dieu. C'est eux qui rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est eux qui relèveront les murs de leur famille. Ils relèveront d'antiques décombres. Les efforts qui ont été faits par leur famille, qui ont donné peut-être qui ont été ruinés, ces efforts sont cassés, qui sont des décombres, des maisons cassées, des familles cassées. C'est eux qui relèveront les antiques décombres, de sorte que ces familles qui viennent aussi de l'Antiquité puissent, avec Jésus-Christ, de qui toute famille tire son nom, ces familles aussi puissent tirer, comme c'est dit dans Éphésiens, ces familles aussi puissent tirer leur nom de Dieu, de Jésus-Christ. Ils renouveleront des villes ravagées. Si ces personnes acceptent la volonté de Dieu, que l'Esprit du Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur qui est sur nous, dit à travers nous qui avons reçu de Dieu la parole. Ces gens renouveleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Leurs villages qui ne sont pas considérés aujourd'hui, qui sont comme des villages ou leurs villes, qui sont comme des villes ravagées, au-delà même de leur famille, c'est ceux-là qui relèveront, qui renouvelleront leur village, de sorte que le village puisse être un village de Christ, un village visible, un village comme sur la montagne de Sion. Nous continuerons plus tard pour que nous comprenions pour nous aussi ce que Dieu nous donne en faisant ça. Mais je lis pour finir la communication de l'esprit avec les autres. Je lis la partie 2 du verset 7 qui dit, non, je lis le verset 7. Je lis le verset 7. Comme ça, nous tous, nous comprendrons pourquoi. Parce que parfois, c'est difficile aussi, quand Dieu te parle, de pouvoir parler à l'autre, de pouvoir communiquer la volonté du Saint-Esprit à l'autre et de pouvoir faire la volonté du Saint-Esprit. Le verset 7 dit, pourrons-nous lire ensemble? Ésaïe 67, 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion de double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Mes amis, si l'Esprit de Dieu est sur toi, tu auras une portion double. C'est-à-dire, au lieu de la... Si tu pensais que c'était la honte, le Dieu te dit ici que, alors que tu pensais, comme Moïse, que fur était une honte, tu auras une portion double. Et celui qui a accepté d'être conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est sur toi aussi, lui aussi, au lieu de sa honte, alors qu'il pensait que c'était une honte, au lieu de la honte, il sera joyeux de sa part et il possédera ainsi le double dans son pays. Et sa joie sera éternelle. Le même salaire. Pourvu que l'Esprit de Dieu soit sur moi. Pourvu que celui qui a le cœur brisé, celui qui se sent malheureux, accepte que cet esprit le touche. L'Esprit de Dieu qui est sur nous, sur quelqu'un d'entre nous, le touche par la volonté de Dieu. Moi qui pensais que la manière de Dieu d'agir est pour moi une honte, j'aurai une portion double. Et l'autre, non seulement, va rebâtir sa famille, sa ville, son village, et aura une portion double dans son pays. Que Dieu nous bénisse afin que nous puissions tous être vraiment éclairés. Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ce que tu fais. Merci de m'avoir donné le courage. Merci d'avoir parlé. De nous avoir parlé. Merci pour ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue d'être sur nous, afin que nous puissions faire ta volonté. Donne à ceux qui ne croient pas encore de te croire et que notre vie soit complètement changée, comme tu l'as promis, au nom de Jésus. Amen.